Y Parejo, atención a la pérdida, roba Correa, Correa desde el medio, Correa. ¡Gol! William Carballo, el autopase, William, por Dios, qué gol. El golpeo y el bola sin botón, otra vez de Courtois, espectacular. Dice el árbitro que no pasa nada, Rakitic que va a golpear.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actu, la fin de saison qui approche à grands pas, 34e journée déjà de Liga, les derniers matchs qui se disputent en ce moment et donc une des dernières journées, mais surtout un des matchs les plus importants de cette fin de saison pour plusieurs raisons, mais la principale évidemment c'est que c'est un derby. On va parler du derby de Barcelone de ce dimanche soir à 21h du côté de Cornellà avec ce match que posera l'Espagnol au Barça. Pour nous parler de l'Espagnol, on retrouve Eloy qui est avec nous, qui revient dans les podcasts. Salut Eloy, comment tu vas ?
Salut à tous, et ben ravi de me joindre à vous à nouveau sur ce podcast. Je vais relativement bien, c'est-à-dire que c'est une saison qui se termine difficilement pour nous les supporters de l'Espagnol. Donc allez, un petit dernier espoir, donc on va parler d'un match qui compte beaucoup et j'ai hâte d'en parler avec vous.
Oui, parce que effectivement, tu l'as dit, l'Espagnol n'est pas dans une très belle situation. Il y a le Barça, à l'inverse, qui est dans une bonne situation et pour qui ce match compte énormément, du coup. Et on va en parler avec toi, Sacha. Comment tu vas ?
Bah, écoute, Réfé, ça va super. Alors, la dernière fois qu'on parlait, c'était après la défaite sur la pelouse du Rayo. Bon, alors, il y a eu deux victoires depuis, deux victoires au Camp Nou, et là, ouais, ça va mieux. La reprise de la Liga nous tarde. Hein. C'est vrai que là, vraiment, 12 jours sans Liga, ça a été un peu compliqué. Mais ça y est, on est de retour dans les podcasts. Et puis pour un super match, un classique.
Exactement. Et c'est une petite dizaine de jours, effectivement, qui a vu le Real être sacré en champion en Coupe d'Espagne pardon, contre Osasuna. Et puis donc ce match de Ligue des Champions aussi, avec le match de Séville qui se joue aussi ce jeudi soir à Turin. Mais du coup, on va commencer par parler de ce match, évidemment, qui, bon, vous l'avez dit, a quand même des enjeux particulier en parlant d'abord de l'Espagnol, parce que c'est vrai que bah, la situation est quand même assez assez critique, assez catastrophique même au classement, parce que voilà 34 journées depuis le début de saison, enfin 33 et donc la 34e de ce week-end, et il se retrouve que voilà un club comme l'Espagnol se retrouve 19e de Liga. Est-ce que toi tu vois ce match comme décisif pour la survie du club en Liga? On sait qu'il y a quand même aussi, on va y revenir, il y avait quand même un projet qui était mis de côté en place de l'Espagnol depuis un certain temps. Là, on est quand même au bord de la relégation. Il y a 3 points de retard sur Valence qui est 17e pour le moment. Voilà, pour ta part, est-ce que tu. Voilà, ce derby, est-ce que tu le sens, tu le qualifierais de particulièrement, on va dire, décisif pour la survie du club dans l'élite?
Alors oui, hein, absolument. Il y a aucun doute sur le fait que c'est un match plus que décisif. Nous, là, les supporters de l'Espagnol, on devient tous un peu mathématiciens, statisticiens. On regarde de combien de points est-ce qu'il faudrait remporter d'ici la fin de la saison pour se sauver, et donc on fait nos petits calculs. Il reste 5 matchs. Voilà, les gens disent qu'avec les experts disent qu'avec 40 ou 41 points, ça pourrait le faire. Donc bon, faut pas avoir eu 20 au bac en maths pour se rendre compte qu'il faut gagner 3 voire 4 des 5 derniers matchs pour se sauver. Donc ça commence forcément par celui-ci. C'est un derby, c'est un match qu'on a toujours envie de gagner, quoi qu'il arrive, quel que soit l'enjeu. Donc là, d'autant plus l'envie et cette fois-ci le besoin absolu de l'emporter. Après, la question, c'est voilà, est-ce que c'est vraiment une possibilité? En tout cas, nous, on a connu des situations similaires, hein, il y a déjà quelques années, où le club a pu se sauver de façon un peu miraculeuse. Donc, notamment, d'ailleurs, notre entraîneur, Luis García, était joueur à l'époque où on s'est sauvé lors de la dernière journée. Donc voilà, il y a encore un petit espoir, un maigre espoir. Mais ce qui est sûr, c'est que tout va se jouer dès ce week-end. S'il n'y a pas de victoire, on aura 90% de chances de descendre, surtout sachant que derrière, on va sur le terrain du Rayo. Après, on reçoit l'Atlético de Madrid. Et les deux derniers, on va à Valence Et on reçoit Almeria. Donc autant vous dire que ce n'est pas des matchs simples. Et les deux derniers, ben, l'enjeu, c'est de rester en vie pour les deux derniers, en fait. Parce que aller à Valence, ça peut être un concurrent direct. Et recevoir Almeria, ce sera sans doute aussi un concurrent direct pour éviter la descente. Hein. Donc voilà, en résumé, il faut le gagner coûte que coûte ce match. Et même en le gagnant, on n'est même pas sûr de se sauver.
Oui, parce qu'effectivement, bah, y a ces 3 points de retard. Et puis oui, tu soulevais un point très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a quand même une particularité, on va dire, en plus cette saison en Liga, c'est que le maintien est quand même relativement élevé. Parce qu'effectivement, oui, tu parlais de la barre environ des 40 points. C'est vrai que généralement, sur les autres saisons, on est plutôt en dessous, légèrement en dessous en tout cas. Et cette saison, ça risque, oui, d'être course pour le maintien qui est une des plus intenses des dernières saisons, parce que tout simplement si on regarde déjà rien qu'entre bah, Almeria dont tu parlais qui est 14e et l'Espagnol notamment qui est 19e, donc il n'y a que 5 points de retard, donc on voit bien qu'effectivement ça va jouer dans un mouchoir de poste en fait, jusqu'au bout et donc oui le prochain match qui arrive déjà face au Barça est décisif, et tu parlais surtout aussi de bah, cette fin de saison, ces 2 derniers matchs en particulier qui seront capitaux, surtout pour voilà, possiblement pour Valence qui est quand même dans une situation assez compliquée, mais c'est ce qu'on observera en tout cas dans les prochaines semaines, et puis donc dès ce week-end du coup avec le derby. Et puis bah du coup ça là, je te pose également une question parce qu'on en parlait au tout début du podcast, mais c'est qu'effectivement ce match pourrait être celui du sacre pour le Barça, qui serait le premier titre en Liga depuis 4 ans, depuis 2019 maintenant. Toi, de manière générale, est-ce que tu trouves que le travail de Xavi il est suffisamment mis en valeur? On sait qu'il y a eu bah, beaucoup de critiques de manière générale sur le jeu parfois, sur les résultats aussi qui ont été bon, certes un peu décevants du côté de l'Europe. C'est vrai que cette Copa aussi, tu en avais parlé, que le Barça attendait, bon, finalement n'a pas eu lieu. On parlait aussi peut-être d'une Liga à 100 points, ça sera finalement pas le cas non plus, mais il y a quand même à côté de ça des chiffres qui sont très bons en Liga, et notamment bah, ce total de points. Et puis aussi ce très faible nombre de buts encaissés. Est-ce que toi, de ton côté, tu trouves que voilà, le travail de Xavi est mis en valeur suffisamment?
Alors, comme tu le disais, c'est vrai que ce sera le premier titre, à moins d'un cataclysme que je n'ose pas imaginer depuis 2019. Premier titre en plus majeur, hein, quelque part, parce que bon, il y a eu une Coupe du Roi en 2021, mais quand tu es le Barça, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Donc voilà, enfin retrouver le goût du titre, le goût du championnat. Mais oui, ça m'est venu à l'esprit un petit peu le travail de Xavi, parce que il faut quand même se rappeler dans quelles conditions il arrive, comment il retrouve le club l'année dernière, avec une équipe totalement amoindrie, à la dérive complète, qui honnêtement, sous les précédents entraîneurs, que ce soit la fin de Valverde, le passage Setién, ou même encore Ronald Koeman, avait perdu beaucoup, beaucoup des fondamentaux de ce qui font normalement le jeu du Barça. Donc Xavi a eu de suite beaucoup de pression, parce que bien sûr, il est tout auréolé de sa légende en tant que joueur, mais force est de constater que malgré ben, certains échecs européens, certains échecs en coupe. Mine de rien, cette saison, avoir remporté la Liga, je pense que quand il est arrivé, on aurait tous signé pour remporter ce titre 15 mois après sa nomination. Je pense que ce week-end aussi, mine de rien, sans Liga, de regarder un peu les championnats étrangers, de regarder un peu ce qui se dit à droite et à gauche, on prend un peu de recul et on se dit quand même que c'est quelque chose d'énorme, quoi. Que ben mine de rien, on y viendra après dans ce podcast, mais la période dorée du Barça qu'on a connue de ces 10 dernières années, ben elle est révolue. Et il faut aussi repartir avec de la lucidité, j'ai envie de dire, et pas croire que toutes les compétitions vont directement retomber un peu du côté du Camp Nou. Donc non, je pense que ouais, le travail de Xavi, il est quand même assez critiqué, je trouve, de manière assez un peu ridicule et véhémente, même de la part de certaines personnes. L'un des grands maux du Barça lors de ces dernières saisons, c'était le nombre de buts encaissés. Et au final, ben, on se rend compte que cette Liga, elle a été remportée de la meilleure des manières. Alors oui, c'est vrai, de la meilleure des manières sur le plan défensif. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu des échecs, comme je l'ai dit. Mais voilà, encore une fois, c'est une Liga, j'ai l'impression, qui est là pour poser les bases. On sent vraiment que Xavi est dans un processus assez long, Il a un projet qui ne peut pas se mettre en place directement en à peine quelques mois. C'est toute une refonte globale du club sur le plan sportif, qui s'accompagne d'ailleurs à la refonte du club sur le plan administratif que prépare et réalise Laporta depuis sa nomination. Donc voilà, c'est un processus long et je pense que pour donner de la stabilité à une équipe en construction, il faut avant tout ça. S'appuyer sur une forte ossature défensive et sur des références. Et en fait, cette saison, ben, il faut quand même se rendre compte aussi que c'est une saison où le Barça a besoin de se créer des références. Il y en a maintenant à nouveau sur la scène nationale et l'année prochaine sera vraiment décisive pour retrouver un peu de solidité et de comment dire de le lustre d'antan un petit peu en Europe, mais voilà, en tout cas, moi je trouve que ouais, par moment, finalement, avec un peu de recul, je pense que son travail est assez sous-estimé et pas mis à sa juste valeur parce que l'année dernière, le Real Madrid, et on le voit encore cette année en Ligue des Champions, a tout cartonné et c'est pas neutre quand même d'avoir 14 points d'avance aujourd'hui et en plus de 13 aussi sur l'Atlético de Madrid. Donc voilà, moi je pense que oui, le travail de Xavi n'est peut-être pas assez mis en valeur, peut-être qu'on est aussi un peu déçu. Et c'est logique d'avoir vu aussi peu de jeux cette année. C'est vrai que c'était une remarque qu'on pouvait se faire. Mais voilà, mine de rien, les faits sont là. Et encore une fois, avec du recul, se dire que si la Liga, elle va normalement tomber cette année, ce sera déjà une première grande réussite dans ce projet.
Oui, puis en plus, c'est vrai qu'il y a eu, tu l'as dit, une saison qui a été particulièrement bonne de manière défensive, puisqu'il y a aussi eu le nombre de clean sheets qui est très élevé, donc ça rejoint totalement ce que tu disais. Et puis d'ailleurs, effectivement, Xavi, on en entend parler depuis quelques semaines maintenant, mais qui, voilà, en tout cas, Laporta a exprimé la volonté de le prolonger. Le club, en tout cas, va travailler sur ça aussi. On sent bien que, voilà, du côté du Barça, il a la confiance aussi du club et des supporters pour la grande majorité. Et ça se ressent aussi dans les propos que tu tenais sur le bilan, on va dire, de cette saison en Liga qui était fait jusqu'à présent. Je reviens avec toi pour à nouveau parler de l'Espagnol, parce que c'est vrai que c'est quand même un club, bon, évidemment historique. L'Espagnol est un des clubs les plus, on va dire, capés, si je peux dire, de la première division en Espagne. C'est un club qui a quand même des propriétaires qui, notamment, se disaient ambitieux, qui a un stade relativement moderne aussi. Il y a eu un titre de Segunda donc en 2021, après une relégation en 2020, justement, dans un derby catalan. Derby barcelonais, même qui s'était cette fois joué au Camp Nou. Il y a quand même un effectif qui, sur le papier, a des qualités, qui est relativement intéressant aussi. Et un joueur qui est un buteur, même qui est un des meilleurs d'Espagne, en la personne de Joselu. Pour toi, comment on peut expliquer que l'Espagnol en arrive à cette situation? Parce que c'est vrai que, voilà, ça a quand même tout d'un club qui, certes, okay, a connu des difficultés ces dernières années, mais qui, en même temps, jouait l'Europe il n'y a encore pas si longtemps que ça. Voilà, il y a quand même, derrière ce que fait ce club, un certain projet, il y a quand même des moyens aussi qui sont mis. Toi, comment t'expliques que, voilà, la saison que l'Espagnol vit cette année ressemble un peu, malheureusement et tristement, à la saison de 2020, qui s'était conclue par une descente, même s'il y avait eu, évidemment, cette saison, il y a plus de points. Voilà, pour ta part, comment t'expliques un peu cette catastrophe qui se profile petit à petit?
Oui, alors ceux qui suivent vraiment l'actualité de l'Espagnol depuis plusieurs mois ou plusieurs années, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire qu'on le voyait venir. C'est-à-dire c'est loin d'être une surprise. Pourquoi? Parce que les causes, les racines de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, il faut les trouver ouais, il y a quelques années, hein, lorsqu'il y a eu justement un changement de propriétaire. Ta question est bien posée, c'est-à-dire que les propriétaires se disaient ambitieux. Ils ne l'étaient pas, ils se disaient ambitieux. Donc voilà, à l'annonce du rachat par notre propriétaire Chen, donc qui est chinois, tout de suite, des grandes annonces comme quoi il allait bâtir un club pour jouer la Ligue des Champions. Pour jouer la Ligue des Champions, il faut avoir les reins solides, il faut beaucoup investir, et investir à la fois économiquement, mais aussi s'investir personnellement, pour faire en sorte que le club devienne du même acabit qu'un Atlético de Madrid. Donc voilà, il y a vraiment un énorme gap. Donc pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? La solution de facilité, ce serait de dire. Le club s'est effondré sportivement à la mi-saison. On était en situation plutôt confortable et puis ça arrive assez souvent. que des clubs, ben, ils enchaînent des défaites. Comme l'effectif, justement, n'est pas bâti pour lutter pour le maintien, eh ben, il y a un aspect psychologique qui prend le dessus, une sorte de déprime qui s'installe dans le vestiaire. Et donc, le club n'arrive pas à se sortir de cette spirale négative. Donc, 4 points, par exemple, on en a mis 4 sur les 30 derniers. Donc, c'est même pas une spirale négative, c'est vrai, c'est une hécatombe. C'est vrai qu'on est un peu dans cette situation où on sent que les joueurs, ils s'attendaient pas à se retrouver là-dedans. L'entraîneur qui s'est fait remercier il y a quelques semaines non plus. Donc on est un peu dépassé par les événements sportivement parlant et psychologiquement. Mais les vraies causes de ce problème, de cette situation, il faut les trouver justement dans un propriétaire qui est éloigné de son club. Il habite quelque part en Chine, à des milliers de kilomètres de notre stade. Et ça fait plus de 1 an qu'il n'a pas mis les pieds en Espagne. Il gère ce club comme une entreprise, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais l'industrie du football et du sport n'est pas la même que celle des jouets qui l'a rendu riche. Il y a un aspect économique, certes, à gérer. Et là-dessus, faut dire qu'il l'a bien géré. Mais il faut aussi gérer l'aspect social. Voilà, il y a toute une fanbase à contenter, à fidéliser, et l'aspect évidemment sportif. Et là-dessus, ça me permet de faire une transition vers la deuxième cause de nos problèmes actuels, un directeur sportif inexpérimenté qui a été choisi en début de saison, qui n'a fait que les mauvais choix. On a vendu quand même notre star de l'année dernière, Raúl de Tomás. On l'a mal vendu. Et en général, quand on vend une star, ben, ça permet à certains clubs, vu qu'il y a une injection d'argent, de rebondir et donc de faire d'autres achats, de faire des vrais choix. Et ben, tous les choix qu'a fait notre directeur sportif, Catoya, ont été mauvais. Les deux seules, peut-être, bonnes recrues qu'on a eues cette année, et avait été amené par le précédent directeur sportif, donc à savoir Joselu quand même, qui tient l'équipe presque à lui tout seul, et Brian O'Levan, un latéral gauche qui est assez performant. Les deux sont arrivés parce qu'ils étaient en fin de contrat, donc c'est des négociations qui avaient été menées par le précédent directeur sportif. Donc propriétaire, directeur sportif, et enfin, si on regarde un peu nos derniers matchs, c'est flagrant. Et j'espère qu'on ne va pas vivre un peu la même chose ce dimanche, mais je crains que ce soit le cas. On a une défense catastrophique. On a une très bonne attaque, comme je disais, avec Rossell ou avec Braithwaite. Vous regardez les chiffres, on est dans les 40 buts marqués. C'est des chiffres d'équipes comme le Rayo ou le Betis. Mais la défense, c'est du gruyère. On n'est pas au niveau. Les équipes arrivent trop facilement et quand elles arrivent, en général, elles transforment dans la plupart des cas leurs occasions. Donc voilà, donc ça me fait assez peur pour dimanche avec des Rafinha ou Dembélé qui vont se faire plaisir. Mais donc voilà, il y a toutes ces causes-là qui font que si on met tout en même temps, voilà, dans un même panier, ben ça fait qu'un club voilà, qui est mal géré, il n'y a pas de leadership, mal piloté sportivement et avec des mauvais choix effectués sur le recrutement et donc sur le terrain, bah, tout ça fait qu'en général, ça ne se passe pas bien sur une saison.
Oui, puis en plus le constat que tu dresses d'ailleurs qui est très intéressant à écouter, bah fait plus ou moins penser un peu aussi à ce que en fait connaît Valence aussi avec une direction qui est complètement aux fraises et puis surtout un propriétaire voilà comme du côté de l'Espagnol qui n'est jamais là, qui prend des décisions parfois un peu surprenantes on va dire, mais en tout cas voilà c'est très très intéressant de t'écouter sur ce point, de nous raconter un peu bah, le fiasco on va dire que l'Espagnol vit maintenant depuis un certain moment que tu as très bien expliqué. Et puis bah, avant qu'on parle directement vraiment du match en lui-même, je te pose une dernière question quand même, Sacha, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va dire, c'est quand même cette nouvelle importante qui a été évoquée depuis plusieurs jours, mais qui a été officielle donc ce mercredi. Bah, c'est le départ de Busquets, qui était donc depuis 15 saisons, si je dis pas de bêtises, au Barça. 18 ans, pardon, même au Barça. et qui donc va s'en aller à la fin de cette saison. Voilà, qu'est-ce que tu en garderas de ce joueur qui, bon, évidemment, a été un des plus importants de l'histoire. Mais voilà, de ton côté, quelle est ton opinion sur ce que Busquets a accompli dans ce Barça?
Ah bah tu l'as dit, hein, 18 ans en club, 15 ans en équipe première, plus de 700 matchs, prochainement 9 Ligas, 3 Ligues des Champions, 7 Coupes du Roi. Voilà, c'est un palmarès extraordinaire, c'est un joueur unique. Et c'est vrai que depuis ben, quelque temps maintenant, un peu comme tous les joueurs de cette génération-là, Piqué, Alba, on sentait qu'ils étaient quand même vraiment sur la fin. Longtemps, longtemps, il y a eu... cette ambiguïté, non, mais cet inconnu sur le fait qu'il allait prolonger, poussé par Xavi, ou alors qu'il allait couler des jours heureux en Arabie ou du côté des États-Unis à Miami. Je pense que voilà, il a pesé le pour et le contre. Déjà, il y a une semaine, juste après le match face à Osasuna, il avait dit qu'il avait plus ou moins réfléchi, qu'il allait annoncer sa décision à l'entraîneur. Enfin, il y avait quand même une grosse vague de pessimisme quant à sa continuité. Et tout naturellement, il a annoncé ben, son départ du club en fin de saison. Bon, personnellement, avant de faire un autre focus sur lui, mais je suis quand même assez content et soulagé parce que récemment, ben, les légendes du Barça sont pas forcément parties de la meilleure des manières. On pense, ben, bien évidemment à Lionel Messi, on pense aussi à Luis Suarez, on pense à Gérard Piqué, qui lui est parti cette saison, on a bien compris qu'il n'avait pas fait la saison de trop, mais les mois de trop, même, j'ai envie de dire. Donc voilà, lui, Busquets, il s'est offert là deux matchs au Camp Nou, face à la Real Sociedad et face au Mallorca, pour dire au revoir à tout le monde, deux beaux rendez-vous, et partir avec une super coupe et une Liga sous le bras, voilà, par la grande porte. C'est ben voilà, c'est un joueur unique, comme je l'ai dit en début d'intervention. C'était le dernier joueur aussi de l'équipe de Pep Guardiola qui avait révolutionné le football en 2009 et 2011 notamment. Voilà, c'était un peu le garant aussi de cette idéologie de ce jeu, de cette manière de penser. C'est un joueur qui est de manière unique, je pense que beaucoup le disent et a raison. Il n'y a pas de remplaçant possible à Busquets, il y a d'autres choses à faire. Et d'ailleurs, Pep Guardiola le montre, hein, tout au long de sa carrière, depuis qu'il a quitté le Barça. Il n'avait pas Busquets, ni Xavi, ni Iniesta d'ailleurs au Bayern, et il n'avait pas Iniesta, ni même Busquets à Manchester City, et pourtant ça joue très bien aussi. Mais voilà, Busquets, ça représentait un peu tout ça, et ben, aujourd'hui, c'est une époque qui est décidément révolue. Petit clin d'œil du destin aussi, ben, son dernier match au Camp Nou, ce sera ben, le dernier match du Camp Nou actuel. Voilà, ben, après l'année prochaine, il y aura les travaux. Il ne verra donc pas le nouveau, mais il aura fait le dernier match de l'ancien. Ça, je trouve que c'est une belle transition, honnêtement, voilà, de cette dernière époque romantique du Barça vers le futur maintenant désormais, qui est d'ailleurs une véritable réussite pour ce qui est du mandat de Laporta, d'avoir enfin, après des années de retard, réussi à apporter ce nouveau stade et ce nouveau projet sur la table. Donc voilà, en tout cas, Busquets, on s'en souviendra toujours. C'est un joueur légendaire qui sera toujours marqué du saut Barça, qu'importe où il aille. Il sera très intéressant aussi de voir les mouvements des joueurs un peu qui l'ont côtoyé dans ces prochaines semaines. On parle de Messi, peut-être d'un retour, peut-être d'un contrat en Arabie Saoudite, Andrés Iniesta pareil, qui pourrait lui aussi quitter le Japon, et Jordi Alba aussi qui est au centre des rumeurs. Donc voilà, peut-être que le métronome Busquets va aussi faire tomber quelques dominos après lui, mais en tout cas voilà, un joueur décidément unique, et qui cette saison aura disputé sa dernière Coupe du Monde. Malheureusement, ça sera pas bien passé, mais qui part de la meilleure des manières avec on l'espère une 9e Liga.
Ouais, complètement. Bah, ton parallèle est très juste, puisqu'effectivement, c'est plus qu'un départ, c'est une page qui se tourne de manière symbolique pour le Barça et puis pour beaucoup de joueurs. Hein. Tu le disais très bien sur ce qu'on a vu sur les dernières saisons. Et puis effectivement, Busquets qui avait aussi pris, on se souvient, oui, sa retraite internationale il y a quelques semaines après la Coupe du Monde. Et puis bah, du coup, après ces points très intéressants, on va passer directement au match en lui-même. Je te pose d'abord cette question, Eloy, c'est. Au niveau de l'infirmerie, des absents en tout cas, y aura-t-il déjà des absents pour ce match du côté de l'Espagnol? Et puis s'il y a des retours aussi de joueurs qui, bah, par le passé, étaient absents et qui seront de retour ce dimanche, je te laisse nous dire ça.
Pas d'excuses, tout le monde sera là, sauf à l'exception de Grajera qui est un milieu défensif remplaçant hein, qu'on a recruté au mercato hivernal. Donc bon, on va dire que voilà, il y a vraiment toutes les forces en présence. Donc à ce niveau-là, on ne pourra pas avoir d'excuses. On pourra peut-être avoir l'excuse de l'arbitre, mais pas celle-ci. Tout le monde sera a priori disponible, sauf surprise de dernière minute.
Très bien, donc un groupe au complet du côté de l'Espagnol. Et puis pour le Barça, du coup, Sacha, qu'est-ce que ça donne de ton côté?
On croit rêver tout simplement. Enfin, l'infirmerie est vide. Sergi Roberto devrait normalement recevoir le feu vert médical entre demain et samedi. Mais voilà, les rapports de tous les journalistes disent que voilà, il sera disponible pour cette rencontre. Donc voilà, le Barça qui a eu au travers de toute sa saison beaucoup de matchs décisifs sans pouvoir compter sur son effectif au complet, là va pouvoir le faire pour le match qui est en réalité le match du titre. Donc voilà, tout le groupe est disponible pour Chali.
Très bien, donc un derby avec deux groupes au complet, du coup des deux côtés. Et puis bah justement ce derby, on va en parler maintenant un peu plus en détail. Je vais d'abord te poser la question, Sacha, puisque je suis avec toi. Voilà, c'est comment tu vois ce derby? Bon, évidemment, on a dit qu'il y avait l'enjeu du titre derrière, mais dans le match en tant que tel, comment tu l'attends, comment tu le sens? Et puis pareil, voilà, est-ce que tu vois aussi un facteur X qui pourrait faire basculer cette rencontre?
Non, ben, Eloy a vraiment parfaitement résumé la situation de l'Espagnol. Alors c'est vrai que pour le coup, ils sont pas au mieux et en général, quand l'équipe qui doit être championne ou qui du moins est dans le top 4 se déplace pour aller affronter une équipe qui se bat pour son maintien, c'est souvent très déséquilibré et en général, ça tourne à l'avantage de l'équipe la mieux classée. Mais là, c'est un derby, c'est toujours des matchs qui sont très difficiles, qui sont au couteau un peu. On se rappelle du derby de l'année dernière avec cette égalisation un peu miraculeuse en toute fin de match de Luc De Jong. 2 ans auparavant, il y avait eu ce deux partout aussi là-bas. C'est rarement des matchs qui sont très faciles pour le Barça récemment. On le sait, voilà, quand c'est un stade aussi qui a une certaine atmosphère aussi dans les grands matchs, parce que mine de rien, il y a cette proximité, je trouve, des tribunes avec la pelouse, il y a une certaine acoustique et ça met vraiment une pression. Donc je pense que les joueurs de l'Espagnol vont être galvanisés, mais ça, Eloy nous en parlera mieux que moi. Côté Barça, voilà, je pense que c'est pareil. C'est un match très important parce que même si tu l'as dit, on ne peut pas atteindre les 100 points cette année, en atteindre 97, ce serait vraiment énorme. Plier le titre aussi, on sent que là, les joueurs en ont vraiment envie, le coach en a envie. Même le président aussi, que ça va débloquer beaucoup de choses, du moins c'est ce qui se dit dans les médias. Donc voilà, je pense qu'il y a cette vraie volonté. D'un autre côté aussi, le match dans le match, même si Joselu contre Lewandowski, voilà, Lewandowski a annoncé Pichichi depuis le début de la saison, ce serait bien qu'il arrive à marquer quelques petits buts pour s'assurer un petit peu cette distinction personnelle. Donc voilà, je m'attends vraiment à un match difficile, un match où le rôle des milieux de terrain sera prépondérant. On sait qu'à chaque fois cette saison que le Barça a pu compter sur son quatuor, Busquets, Frenkie de Jong, Pedri et Gavi, dans ce genre de match-là, ça s'est toujours très bien passé parce que ce sont des joueurs qui arrivent un peu à contrecarrer l'intensité adverse et à tisser un peu leur toile dans la moitié de terrain adverse. Donc voilà, je pense que ce sera vraiment la clé du match, ce milieu à 4, cette capacité vraiment de garder les ballons, d'étouffer l'Espagnol, de mettre la pression et d'éteindre bien sûr le stade. Lewandowski pour enfin finir et reprendre le large dans la course au Pichichi. Et puis alors de l'autre côté, c'est l'incertitude, qui de Rafinha ou de Dembélé sera titulaire? Aujourd'hui, Mundo Deportivo nous annonçait que Ousmane Dembélé avait de bonnes chances de retrouver son poste titulaire. Donc, à voir un peu ce que ça va donner. C'est vrai qu'on parlait aussi tout à l'heure de la fébrilité de la défense de l'Espagnol, mais je m'attends à un Espagnol qui joue assez bas. Donc, est-ce qu'il y aura beaucoup d'espace pour Dembélé à exploiter? Ce sera là aussi encore une inconnue. On sait qu'il est meilleur dans cette configuration quand il a justement le champ libre, plutôt que face à une défense regroupée. Mais en tout cas, voilà, pour le Barça, ce sera vraiment asseoir via le football sa domination, parce que ce sera un climat hostile. Et puis oui, moi je me rappelle d'un petit tweet d'Eloy qui parlait d'un puntazo au Camp Nou pour nous enlever la Liga. Alors bon, on n'aimerait pas une défaite qui viendrait à réouvrir la course au titre, même si ça paraît peu probable. Donc voilà, non. Faire le travail dans un match compliqué, mais avec la qualité au milieu de terrain, ça devrait être la clé.
Quelque chose me dit oui qu'on va beaucoup entendre parler encore de ce tweet effectivement,
On se
mais...
parle tout le passant.
mais en tout cas c'est noté pour ce que tu attends et puis pour comment tu vois ce match, on l'a compris donc avec les différentes clés que tu as citées. Et du coup là je te posais la même question, c'est pareil, tu avais déjà donné quelques éléments de réponse tout à l'heure, mais peut-être plus en détail, comment tu vois cette rencontre, et puis pareil si tu as un facteur X à donner pour faire basculer cette rencontre.
Assez d'accord avec tout ce que vient d'évoquer Sacha, hein. C'est vrai que celui qui remportera le milieu risque de gagner le match, et ça c'est souvent victoire assurée pour le Barça. Pourquoi je dis ça? Parce que notre entraîneur là, Luis García, il a imprimé un nouveau style de jeu. Donc précédemment on était plutôt la volonté de Diego Martínez, c'était d'avoir une équipe solide en défense et de jouer les contres. Depuis quelques matchs, non pas que ça marche mieux, hein, mais la volonté, c'est d'essayer d'avoir le ballon, de dominer l'entrejeu, avec des joueurs voilà, qui sont connus, comme Darder ou notre petit jeune Nico Melamed qui est très prometteur, mais c'est vrai qu'à ce jeu-là, on risque de perdre. Donc je pense qu'effectivement, l'équipe risque de. Enfin, on risque de jouer à 5 défenseurs et d'être plus attentiste que lors des derniers matchs. Mais ce n'est pas forcément une stratégie gagnante et payante quand on attend et qu'en face, on a des Pedri, Rafinha, Dembélé, avec notre défense cataclysmique, ça peut faire très mal. Donc, pas évident de lire ce match de notre côté. Ce qui est sûr, c'est que il faudra que la défense fasse peut-être le meilleur match de la saison. C'est pas très difficile parce que pour l'instant des bons matchs il n'y en a pas eu. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faudra qu'on continue de compter sur nos deux attaquants, hein, Joselu évidemment, donc meilleur buteur espagnol du championnat, mais aussi Braithwaite, hein. Je rappelle que jusqu'à l'année dernière, il était chez nos meilleurs ennemis, et qui fait plutôt une bonne saison avec 9 buts, hein, donc c'est pas rien pour l'un à 14, l'autre à 9 pour une équipe qui est aussi bas dans le classement. Donc deux attaquants qui en général ont le flair et savent planter quand il le faut. Et donc je disais, voilà, peut-être un éclair de génie de un de nos deux milieux talentueux comme Darder ou Melamed. Et enfin, je dirais peut-être dernier facteur X, ça a été cité par Sacha, le public. Je pense que toute la frustration de ces dernières semaines ou ces derniers mois va ressortir, hein, et tous les supporters, on va crier comme jamais, sans doute beaucoup contre l'arbitre, mais aussi contre les joueurs du Barça. Donc ce facteur X, il sera bien présent, ça j'ai aucun doute. Pour les autres que j'ai cités, j'ai beaucoup plus de doutes.
Très bien, ouais, donc ça se rejoint tous deux dans vos analyses. Oui, le public assez hostile, effectivement, pour plusieurs raisons, évidemment, dans le derby, puis au vu des enjeux respectifs des deux équipes, en tout cas, c'est en tout cas un point de vue qui s'entend largement. Puis on aura l'occasion de vérifier aussi ce que vous avez dit plus en détail ce dimanche soir, donc. Et puis on va conclure ce podcast, évidemment, avec la séquence pronostic, comme on a l'habitude de le faire. Je commence d'abord avec toi, Eloy, quel est ton pronostic pour ce derby de dimanche soir?
Alors, mon prono, c'est forcément une victoire, hein, évidemment, parce qu'on n'a pas le choix. Moi, je dirais, allez, un 2-1. On va laisser un but à Busquets, parce que bon, voilà, c'était un gentil garçon. Voilà, on n'a pas autant. On a détesté un Piqué, mais Busquets, ça n'a pas été. Voilà, on lui en veut pas, et puis il a aidé à l'Espagne à gagner une Coupe du Monde quand même. Donc petit but de Busquets qui nous met qui nous fait peur en première mi-temps, et remontada en deuxième mi-temps avec un but de Joselu parce qu'il le faut, sur un penalty qui n'y était pas, hein, parce que voilà, parce que ça arrive jamais. Donc maintenant, on doit croire même à ce type de miracle. Et un but sur la fin de Melamed, qui est notre petit chouchou maintenant, le petit jeune de l'équipe, à la 87e minute. Donc 2-1 pour l'Espagnol.
Une victoire 2-1 de l'Espagne dans les dernières minutes du coup. Sacha, à ton côté, qu'est-ce que tu nous donnes comme pronostic?
Mais écoute, moi je vais partir sur une victoire nette et sèche 3-0 du Barça, avec un doublé de Lewandowski et pourquoi pas un petit but de Pedri. C'était le duo un peu qui marchait vraiment au meilleur moment de la saison du Barça, ces deux-là. Donc pourquoi pas les retrouver buteurs. Voilà, un 3-0, le titre, hein, et c'est la fête après dans les rues de Barcelone.
Donc un succès avec la manière pour le Barça, puis ensuite le titre, effectivement, tu le disais. Pour ma part, je dirais une courte victoire difficile du Barça, mais parce qu'effectivement, je vois quand même le Barça être supérieur dans ce match, avec l'enjeu du titre qui prime derrière en plus. Mais face à un Espagnol qui, bon, comme Eloy l'a beaucoup répété dans ce podcast et l'a très justement dit, a quand même aussi, bah voilà, se rapproche quand même de la fin de saison, donc possiblement d'une descente. Donc un Espagnol qui aura une certaine pression et qui va, à mon avis, faire un match sérieux, mais peut-être pas suffisamment pour empêcher le Barça de gagner, notamment en défense. Tu en parlais très bien, Eloy, du fait qu'il y a beaucoup de carences dans cette zone-là de dispositif de l'Espagnol, je vais dire. Donc voilà, une courte victoire du Barça de buts à un et qui sera donc synonyme de titre. Et bon, on aura l'occasion en tout cas de vérifier tout ça dimanche soir. Ça sera en tout cas ce qu'on va pouvoir suivre. Et puis on arrive à la fin de ce numéro pour nous parler du beau derby barcelonais, donc qui arrivera pour cette 34e journée. Je te remercie d'abord, toi Eloy, d'être venu nous parler de l'Espagnol, de la situation un peu difficile ici que traverse le club. Et puis évidemment, on te souhaite un bon derby.
C'est toujours un plaisir et il va falloir envisager de créer un podcast pour la deuxième division, hein, quand même, parce que moi je veux continuer à parler avec vous là, mais sinon il va falloir attendre encore un an. Voilà. Donc réfléchissez-y parce que ça peut être un vrai sujet pour nous.
L'option est sur la table. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Et puis, bah, merci aussi à toi, Sacha, évidemment, d'avoir répondu présent, comme toujours, pour nous parler du Barça dans ce nouveau numéro.
Ouais, tout à fait, mais ça fait vraiment plaisir. Non, en plus, on y pense parce que, alors, je sais pas s'il va nous écouter, mais j'ai un ami à moi qui supporte le Levante. Alors bon, ça a l'air un peu compliqué pour aussi de remonter, mais peut-être que l'année prochaine, on aura le Barça Athletic, hein, la réserve en deuxième division. Donc ça se trouve, on ne perdra pas nos derbies, Eloy. Voilà, on les verra au Johan Cruyff, mais bon, ça peut être
Attention,
intéressant, tu
attention,
vois.
Sacha, attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait un Barça espagnol en deuxième division, hein. Il y a des affaires douteuses qui traînent. Attention de ne pas devoir vraiment aussi te recruter toi pour le podcast de deuxième division.
C'est vrai que ça peut être compliqué, mais j'ai pleine confiance en la justice et en mon président. En tout cas, non, c'est super comme podcast, comme d'habitude. Et puis voilà, pour parler d'un super derby, on a passé, je pense, un bon moment. On a un peu permis de déblayer un petit peu l'actualité des deux clubs. Et en tout cas, on espère que ça vous aura plu, les auditeurs. Et surtout, 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 21h dimanche soir pour ce choc en Liga.
Voilà, exactement, tout est dit sur cette fin de numéro. Puis puisqu'on disait deux mots dessus, si des gens veulent suivre la fin de saison en seconde division, bah c'est le moment, parce que c'est la lutte pour le titre en ce moment est vraiment passionnante, et il y aura les playoffs ensuite. Donc voilà, tout est à disputer dans le haut de tableau en deuxième division. Mais voilà, en tout cas, on ferme ce podcast sur le derby de Barcelone. On espère qu'il vous aura plu, et puis on vous souhaite un très bon match, et on se dit en tout cas à très bientôt.